Bon, si vous voulez, on va commencer. Je voudrais juste ajouter un petit point, une précision à mon cours, un des deux cours de la semaine dernière. Vous vous rappelez que j'avais parlé de l'orientation nucléaire de l'hélium-3 par collision des chances de métastabilité. On pompe l'hélium dans l'état métastable et on utilise des collisions des chances de métastabilité pour transférer cette orientation à l'état fondamental. On m'a fait remarquer à juste titre qu'il y a une autre méthode qui est utilisée de manière importante, en particulier aux États-Unis, qui consiste à mélanger l'hélium-3 non polarisé avec un alcalin polarisé par pompage optique à forte pression. À ce moment-là, les interactions magnétiques lors des collisions alcalin-hélium-3 permettent de polariser le noyau. Donc ça, c'est une autre méthode d'orientation de l'hélium-3. Elle est peut-être un peu plus délicate si on veut faire de la radiographie pulmonaire, parce qu'à ce moment-là, il faut être sûr que quand on fait respirer ça au patient, on a enlevé tous les alcalins, parce que les alcalins seraient dramatiques pour attaquer le tissu pulmonaire, tandis que l'hélium-3 orienté par échange de métastabilité reste l'hélium-3 tout seul et il n'est absolument pas nocif. Donc aujourd'hui j'aborde deux cours, 3 et 4, consacrés au point de vue suivant, les photons sont une source de perturbation pour l'atome. Alors de manière plus précise, ce que je voudrais montrer, je voudrais passer en revue les perturbations subies par un atome lorsque cet atome interagit avec une onde incidente, qui peut être une onde de radiofréquence, un faisceau lumineux ordinaire, issu d'une lampe ordinaire, ou un faisceau laser. Je voudrais souligner aussi le parallèle qui existe entre ces effets perturbateurs sur l'atome et les effets perturbateurs sur le photon, à savoir ceux qui sont décrits par l'indice de réfraction, modification de vitesse de propagation d'un faisceau lumineux à travers un milieu matériel et absorption de ce faisceau. Je voudrais aussi comparer ces perturbations subies par l'atome aux corrections radiatives de l'électrodynamique quantique. On sait en effet que quand un atome est dans le vide de photons, il continue à interagir avec le champ quantique du vide, et ceci est responsable des corrections radiatives bien connues, déplacement de l'onde, largeur naturelle des niveaux, etc. Alors, le cours, je crois que j'ai. Le cours 3 sera consacré à l'interaction d'un atome avec une onde quasi-résonante. À ce moment-là, comme je suis près d'une transition atomique, je peux négliger tous les autres niveaux, et ceci permet de faire des approximations intéressantes et de pousser les calculs assez loin. Puis, le cours 4, au contraire, sera lui consacré à l'interaction d'un atome avec une onde haute fréquence, par exemple un spin 1,5 couplé à un champ radiofréquence haute fréquence, un électron atomique faiblement lié comme un électron atomique dans un état de Rydberg couplé à un faisceau laser de haute fréquence par rapport à la fréquence du mouvement de l'électron de Rydberg. Je voudrais faire la comparaison avec les corrections radiatives et l'effet Lamb et G-2. Et dans le cours 3, j'essaierai aussi de vous montrer que ces effets de perturbation sont bien sûr une perturbation dont il faut tenir compte dans les expériences de spectroscopie laser de haute résolution, bien sûr, mais il se trouve que dans les deux dernières décennies, on s'est rendu compte qu'il pouvait être aussi un outil précieux pour manipuler les atomes. Et je passe en revue quelques exemples d'application de ces effets de manipulation utilisant par exemple, les déplacements lumineux. Donc, je commence par l'interaction d'un atome avec une onde quasi-résonante. Alors, pour présenter les résultats le plus rapidement possible, je ne prendrai pas l'approche qui avait été utilisée au début, qui consistait à partir de l'équation pilote, mais je prendrai une approche atome habillé qui permet de comprendre rapidement ce qui se passe. Je considère un atome à deux niveaux, F fondamental et excité, couplé à un mode du champ quantique de fréquence oméga L. Alors, j'ai représenté ici quelques niveaux de ce système. Fn plus 1, atome dans l'état F en présence de n plus 1 photon, et n, atome dans l'état excité en présence de n photons, un photon de moins. Donc, quand je passe de F à E, je perds une énergie oméga 0, mais quand je passe de N plus 1 à N, je gagne une énergie oméga L, de sorte que si j'appelle E moins EF égale H bar oméga 0, La différence entre d'énergie entre ces deux états, c'est H bar delta, où delta, c'est le désaccord entre la fréquence de la lumière, oméga L, et la fréquence de l'atome, oméga 0. Autrement dit, ces deux niveaux sont très rapprochés l'un de l'autre si on est près de résonance. Si je prends les mêmes niveaux avec un photon de moins, j'ai une nouvelle multiplicité 2 par 2 que j'appelle En-1, qui est située à une distance H bar oméga L en dessous, où oméga L est la fréquence du champ lumineux, et ainsi de suite, En-2. Maintenant, un atome dans l'état F, en présence de N plus un photon, peut absorber un de ces photons et passer dans l'état E. Ceci explique que l'état Fn plus 1 est couplé à l'état En par la Hamiltonienne d'interaction VAL, et cet élément de matrice, c'est le couplage, il est bien sûr proportionnel à l'élément de matrice de l'opérateur destruction d'un photon entre n plus 1 et n, qui est en racine de n plus 1, de sorte que cette quantité-là, oméga n plus 1, on peut l'écrire sous la forme oméga 0 racine de n plus 1, où oméga 0 c'est sa valeur pour n égale 0, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Rabi du vide. Alors, si maintenant je considère la multiplicité En formée de Fn plus 1 et n, et si je m'intéresse à l'évolution à l'intérieur de cette multiplicité, c'est-à-dire si je calcule la réduction de l'opérateur d'évolution à l'intérieur de cette multiplicité, je m'aperçois que les deux états sont couplés par le couplage de Rabi, oméga n plus 1, mais je réalise aussi que l'état En, atome dans l'état excité n, est couplé non seulement à Fn plus 1 par l'interaction atome-champ lumineux, et ça correspond à l'émission induite, on a un photon de plus dans le monde, mais il est couplé aussi à un état F, n, le nombre de photons incidents ne change pas, K, un nouveau photon est émis, c'est un photon spontané. Et ce couplage se fait avec un continuum, parce que le photon spontané peut être émis dans toutes les directions possibles. Si on étudie l'interaction, l'évolution à l'intérieur de la multiplicité, et de n, et qu'on utilise la méthode des opérateurs de projection et de la résolvante, qui est en particulier décrite dans le livre processus d'interaction entre atomes et photons, on peut démontrer que l'évolution réduite à l'intérieur de la multiplicité En est décrite par ce qu'on peut appeler un Hamiltonien effectif, consistant à ajouter à l'énergie non perturbée de l'état E, qui est instable, une partie imaginaire moins γ sur 2 qui décrit son instabilité radiative. Autrement dit, ce sont les deux couplages de Rabi. Delta, c'est l'énergie de l'état Fn plus 1 par rapport à l'énergie de l'état En prise pour zéro d'énergie. Et on a ajouté moins J gamma sur 2 à l'énergie de l'état En. Je suppose aussi implicitement que le déplacement de lambda a été réinclus dans la fréquence atomique non perturbée. Donc, pour calculer l'évolution à l'intérieur de cette multiplicité, il faut diagonaliser cet Hamiltonien effectif qui n'est pas hermétique, et on comprend pourquoi il n'est pas hermétique, c'est qu'à cause de l'émission spontanée, l'atome peut quitter cette multiplicité et aller vers d'autres états. Donc sa norme ne peut pas être conservée au cours du temps. Donc je vous renvoie, si pour plus de détails, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne reprendrai pas les calculs ici, je donnerai uniquement la discussion physique, je vous renvoie au chapitre 3 de processus d'interaction entre photons et atomes. Alors qu'on fait ceci, les nouvelles valeurs propres de cet Hamiltonien, quand oméga tend vers 0, quand le couplage tend vers 0, vont être proches de delta et moins gamma sur 2. Considérons la valeur propre qui tend vers delta quand oméga n plus 1 tend vers 0. Comme l'Hamiltonien n'est pas hermétique, ces valeurs propres ne sont pas réelles. Et la nouvelle valeur propre va être h bar delta, la valeur propre non perturbée, plus une correction avec une partie réelle que j'appelle delta f et une partie imaginaire qu'on trouve être égale à moins j gamma f sur 2. Où gamma f est réel. Alors, si on regarde cette expression, ces deux quantités ont une interprétation physique immédiate. Delta f, c'est une correction en énergie de l'état fn plus 1, donc c'est un déplacement de l'état fondamental dû à la lumière, et gamma f sur 2, ça va rendre l'état fn plus 1 instable, il va se disparaître avec un taux qui est le carré, qui est le double de gamma f sur 2, c'est-à-dire gamma f, donc gamma f va être le taux de départ de l'état f, ça va être le taux d'absorption d'un photon. Alors, ça c'est facile à comprendre, on avait deux états, Fn plus 1 et n, quand on les couple, ils se repoussent, ça c'est le déplacement lumineux, et d'autre part, l'interaction oméga n plus 1 contamine l'état stable F par l'état instable En et lui confère une partie de l'instabilité radiative de l'état En. Et c'est ça qui apparaît comme le taux d'absorption d'un photon. Alors, il est particulièrement intéressant d'étudier la limite des faibles intensités quand le couplage oméga n plus 1 est plus petit que soit le désaccord delta en module, soit la largeur gamma de l'état excité. À ce moment-là, cette matrice 2 par 2, on peut la diagonaliser de manière perturbative en prenant le carré d'éléments de matrice de couplage divisé par le dénominateur d'énergie. On trouve dans ces conditions que delta F et gamma F ont des expressions particulièrement simples. Delta F, c'est oméga n plus 1 carré, le carré de la fréquence orbite, qui multiplie delta sur 4 delta 2 plus gamma 2. Et gamma F, c'est la même chose, delta étant remplacé par gamma au numérateur. Alors, si on regarde ces deux expressions, on s'aperçoit que la fréquence de Rabi est proportionnelle, le carré de la fréquence de Rabi est proportionnel au carré du champ. Donc, le oméga n plus 1 carré est proportionnel à n plus 1, donc à l'intensité de la lumière, pour n grand devant 1. Donc, les deux effets, déplacement et élargissement du niveau, sont proportionnels à l'intensité lumineuse. Si on regarde maintenant la variation avec le désaccord, ceci c'est une courbe de dispersion, ceci c'est une courbe d'absorption. Donc le déplacement varie comme une courbe de dispersion, l'élargissement varie comme une courbe d'absorption en fonction du désaccord. Enfin, il est intéressant d'étudier ce qui se passe à la limite des grands désaccords quand le désaccord delta est grand devant la largeur naturelle du niveau. À ce moment-là, je peux négliger gamma 2 devant 4 delta 2 ici, et je trouve que delta F est proportionnel à IL sur 4 delta, alors que gamma F est proportionnel à IL gamma sur 4 delta 2. Alors, gamma sur 4 delta 2, je peux l'écrire IL sur 4 delta, c'est-à-dire delta F, qui multiplie gamma sur delta. Autrement dit, quand je suis loin de résonance, l'élargissement gamma F est gamma sur delta fois plus petit que le déplacement. Et comme je suppose gamma très petit devant delta, donc il suffit d'augmenter le désaccord pour diminuer considérablement l'élargissement par rapport au déplacement. À la limite des très grands désaccords, on n'a plus qu'un seul effet qui est le déplacement du niveau d'énergie. Ces deux effets ont une interprétation semi-classique, assez claire. En effet, le champ lumineux monochromatique met en mouvement le dipôle atomique, en mouvement forcé, et la réponse du dipôle atomique au champ lumineux a une composante en phase et une composante en quadrature, comme tout oscillateur à très près de la résonance, qui dépend de l'amortissement de l'oscillateur gamma. Évidemment, comme je suis près d'une résonance, la polarisabilité, une polarisabilité qu'on appelle la polarisabilité dynamique, elle ne coïncide pas avec la polarisabilité statique dans ce champ statique. Donc c'est une polarisabilité qui dépend de la fréquence alpha de oméga. La composante en quadrature du dipôle absorbe ou émet de l'énergie, elle échange de l'énergie avec le champ, et elle varie avec delta comme une courbe d'absorption. Ça, c'est la dissipation, et c'est elle qui est responsable du taux d'absorption. La composante en phase, elle, on a le champ et le dipôle qui sont en phase ou en opposition de phase, et l'énergie de polarisation correspondante, c'est ce qu'on appelle l'énergie de polarisation dynamique. Et c'est elle qui est responsable du déplacement lumineux. Et comme la composante en phase varie comme une courbe de dispersion, on comprend pourquoi le déplacement lumineux varie comme une courbe de dispersion. Et cet effet, si vous voulez, est très voisin de l'effet bien connu, l'effet Stark, qu'on a un atome qu'on met dans un champ électrique statique. Le champ statique induit un dipôle statique et couplé avec lui, et c'est ce qui donne naissance à l'effet Stark. Ici, c'est la même chose, à part que le dipôle qui est induit par le champ et qui est la réponse de l'atome avec la polarisabilité dynamique, c'est donc la raison pour laquelle le déplacement lumineux est aussi souvent appelé effet Stark dynamique. C'est un effet Stark qui fait intervenir la polarisabilité dynamique alpha de oméga qui multiplie E carré. Alors, j'ai parlé ici de la perturbation de l'état Fn plus 1. L'état En est aussi perturbé. Quand on a deux niveaux qui sont couplés, ils se repoussent. Donc, l'état En subit aussi un déplacement et quand on le calcule, on trouve que le déplacement delta E est égal à moins delta F. C'est l'histoire que quand on a deux niveaux couplés par une perturbation, ils se repoussent, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Donc le déplacement d'état excité a le signe opposé du déplacement d'état fondamental. Et quand on fait le calcul de gamma, on trouve que gamma devient gamma E égale gamma moins gamma F. Et ça, c'est l'effet réciproque du précédent. L'état instable En est couplé à un état stable et ceci le stabilise un peu. Son instabilité diminue légèrement, elle passe de gamma à gamma moins gamma F. Alors, j'ai considéré ici le cas simple où l'état fondamental est non dégénéré, de même que l'état excité. Bien sûr, dans une transition atomique, il y a des sous-niveaux Zeeman. Et si je prends par exemple un moment cinétique JF, j'ai 2JF plus 1 sous-niveau Zeeman en bas, 2JE plus 1 sous-niveau en haut, et il est clair à ce moment-là que les déplacements lumineux du niveau fondamental vont varier d'un sous-niveau Zeeman à l'autre et vont dépendre de la polarisation de la lumière. Pour le voir, il suffit de prendre un exemple particulièrement simple. Si je prends une transition 1,5-1,5, qui correspond par exemple au cas de la transition 1,5-1,5 de l'isotope 199 du mercure, que j'ai discuté abondamment la semaine dernière, j'ai deux sous-niveaux Zeeman en bas, deux sous-niveaux Zeeman en haut, et il apparaît alors clairement que si on a une excitation sigma moins, seule cette transition est excitée, donc seul le sous-niveau Zeeman MF égale plus 1,5 va être déplacé. Alors que si on a une transition sigma plus, une excitation sigma plus, seul le sous-niveau Zeeman MF égale moins 1,5 va être déplacé. Alors ceci est un cas particulièrement simple. Dans le cas général d'une polarisation qui n'est ni sigma plus, ni sigma moins, ni pi, et les moments cinétiques peuvent être plus grands que 1,5, mais ceci peut se résoudre de manière simple. Si j'appelle MF et M'F deux sous-niveaux dans l'état fondamental, on peut introduire la matrice A M'F MF, qui est la matrice suivante, on part de MF, avec la composante du dipôle R sur la polarisation epsilon de la lumière, on monte dans ME, puis on redescend de ME à MF avec epsilon étoile R, le complexe conjugué, parce que la polarisation peut ne pas être réelle. Et on somme sur tous les états ME. On obtient ainsi une matrice qui agit dans l'état fondamental. Et on peut montrer que les vecteurs propres de cette matrice, qui est hermétique en particulier, sont les états fondamentaux, superposition des niveaux Zeeman, qui subissent un déplacement lumineux bien défini. Et on peut montrer que la valeur propre correspondante sont les proportionnelles au déplacement lumineux subi par ces états, avec un coefficient de proportionnalité qui va être en particulier le déplacement lumineux que subirait une transition entre deux niveaux non dégénérés. Donc, pour calculer la perturbation de l'atome dans l'état fondamental, il faut diagonaliser cette matrice hermétique. Et on obtient ainsi une série de déplacements lumineux et une série d'états propres, bien définis. Alors, si vous regardez cette matrice, vous voyez qu'elle fait intervenir deux fois un vecteur. Et quand, en mécanique quantique, on compose deux vecteurs, K égale 1, on obtient une décomposition, un opérateur tensoriel et réductible, on peut obtenir soit un moment cinétique 2, soit un moment cinétique 1, soit un moment cinétique 0. Autrement dit, cette matrice de perturbation peut être développée en opérateur tensoriel et réductible TKQ avec des valeurs de K égale à 0, 1 ou 2. C'est parce qu'on compose deux vecteurs que la composition de deux moments cinétiques 1 donne 0, 1 ou 2. Alors, le terme K égale 0, c'est un scalaire, il décrit un déplacement global de la multiplicité fondamentale. Le terme K égale 1 va être une certaine combinaison linéaire de Jx, Jy, Jz dans l'état fondamental. Donc, sera la même structure qu'un Hamiltonien Zeeman, puisque l'Hamiltonien Zeeman, c'est moins B scalaire J, c'est le produit scalaire de J avec un vecteur de champ magnétique. Donc, le terme K égale 1 va décrire le même effet que celui que produirait un champ magnétique sur l'état fondamental. On l'appelle un champ magnétique fictif, parce que ce n'est pas un champ magnétique réel, c'est un champ magnétique fictif associé à l'excitation lumineuse, champ magnétique statique. Et le terme K égale 2, ça a la même forme qu'un moment quadripolaire, et ça décrit la même structure que celui que décrirait l'effet Stark par un champ électrique statique fictif. En fait, donc cette décomposition, ça a été... L'étude théorique expérimentale a été un des sujets de la thèse d'état de Jacques Duperron, en 1972. Alors, je voudrais parler maintenant des premières mises en évidence expérimentales de cet effet, il y a une quarantaine d'années, un peu plus que 40. Alors, au début des années 60, il n'y avait pas de laser, pas encore. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait le pompage optique de l'isotope 199 HV sur la transition 1,5-1,5, excité par une lampe remplie d'isotope 204 qui se trouve coïncidée avec cet ray. Je vous ai expliqué la dernière fois que les différents isotopes du mercure tombaient un peu partout et que l'isotope 204, par chance, tombait exactement sur la transition 1,5-1,5 de l'isotope impair 199. Alors avec cette lampe, on fait le pompage optique de cette transition, on détecte le pompage optique, on détecte la résonance magnétique dans l'état fondamental, résonance magnétique qui est extrêmement étroite parce que dans l'état fondamental, les temps de relaxation sont très longs, de l'ordre de la seconde, voire plus, Donc on a des rayons de 1 Hz de large, extrêmement étroits. Puis on ajoute un deuxième faisceau lumineux, rempli par un autre isotope, en l'occurrence l'isotope 201 du mercure, qui est situé à quelques largeurs Doppler de l'isotope 199. Donc c'est une transition, une excitation non résonante. Et pour être sûr qu'elle soit vraiment non résonante, on interpose en plus sur le trajet de ce deuxième faisceau un filtre rempli de 204 de manière à supprimer au maximum toutes les fréquences résonantes susceptibles d'exciter la vapeur de mercure. Et ensuite, on donne à ce faisceau perturbateur soit la polarisation sigma plus, soit la polarisation sigma moins. Alors, il est clair que voici les deux sous-niveaux Zeeman dans l'état fondamental, séparés par un champ magnétique. Ça, c'est tout petit, c'est quelques hertz. Et si on met un faisceau lumineux sigma plus, il se trouve que 201 AG dans le bleu de 199, donc le déplacement lumineux est positif, ça va déplacer uniquement le niveau moins 1,5. Si le faisceau perturbateur est sigma moins, ça va déplacer uniquement le niveau plus 1,5, aussi vers le haut. Et comme le désaccord de la lumière est très grand devant l'effet Zeeman, ces deux déplacements sont égaux. Le désaccord est le même pour les deux excitations. Et puis, ça veut dire donc que si on mesure cet écart d'énergie par résonance magnétique, la résonance magnétique va être déplacée dans un sens ou dans l'autre, suivant que la polarisation est sigma plus et sigma moins. En fait, comme on travaille à fréquence constante du champ de radiofréquence et qu'on balaye le champ, l'arrêt sigma plus va être déplacé vers les champs faibles et l'arrêt avec une perturbation sigma moins va être déplacé vers les champs forts. Et comme cette raie est extrêmement étroite, la raie de résonance magnétique, on pourra détecter des déplacements tout petits. Et voilà effectivement la première mise en évidence des déplacements lumineux, où on a ici les courbes avec des ronds, c'est la raie de résonance magnétique sans faisceau perturbateur. Cette raie avec des triangles, c'est le faisceau perturbateur et sigma moins. Et avec des croix, le faisceau perturbateur et sigma plus. On voit que l'arrêt est déplacé d'une quantité de l'ordre de sa largeur, donc il est facilement détectable, et qui change de signe quand on passe de sigma plus à sigma moins. Alors, on avait essayé également à l'époque de vérifier que la dépendance du déplacement lumineux avec le désaccord était une courbe de dispersion. Ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de possibilité de balayer une source lumineuse. Il n'y avait pas de laser accordable. Alors, le principe de l'expérience a été le suivant. Comment faire varier Delta? On a pris une lampe à 199, qui est donc résonance, extrêmement chaude, la décharge est très chaude, de façon qu'elle émette une raie beaucoup plus large que la largeur Doppler. Une raie de 3 ou 4 largeurs Doppler. Et puis, on interpose sur cette lampe, une cellule remplie d'un autre isotope, 202 AG, qui a quelques largeurs Doppler, de 199, et elle, on la met dans un champ magnétique qu'on balaye. Donc, une des composantes de cet isotope, en l'occurrence la composante sigma moins, est déplacée par effet Zeeman, et va faire un trou d'absorption dans l'arrêt très large émis par l'isotope 199 AG. Donc on a ici l'arrêt 199 AG très large, et ici le trou creusé par le filtre à 202 AG, placé dans un champ magnétique, et en balayant le champ magnétique, on balaye ce trou. Donc on mesure maintenant les effets en négatif liés à l'absence de lumière correspondant à ce trou-là. Et l'expérience confirme les prédictions théoriques. Voici le déplacement lumineux en fonction du désaccord. Il varie bien comme une courbe de dispersion, mais avec le signe opposé. Normalement, ça devrait être dans ce sens-là, mais comme c'est un trou et non pas une bosse, on a l'effet en négatif. Et voici l'élargissement. L'élargissement aussi est en sens opposé. Il varie comme une courbe d'absorption. C'est un trou et non pas une bosse parce qu'on a diminué le taux de départ, qu'on a créé le trou juste au centre de la résonance. Donc, ces deux effets ont été vérifiés. Et quelques mois plus tard, une suggestion de Kasser extrêmement astucieuse a permis de gagner considérablement sur l'amplitude du déplacement. Au lieu d'utiliser pour le faisceau perturbateur une lampe à 201 AG qui est décalée d'une certaine manière, on part d'une lampe à 204 AG qui est résonante, mais on la met maintenant dans un champ magnétique axial, de sorte que les composantes sigma plus et sigma moins de cette lampe sont décalées symétriquement par rapport à la résonance. Voilà l'arrêt sigma plus, voilà l'arrêt sigma moins. Ça, c'est l'effet Zeeman normal, une transition 0,1. Alors maintenant, ça, c'est ce qui est agréable, c'est que la composante sigma plus déplace le niveau F mf égale moins 1,5, elle déplace vers le haut parce que le désaccord est positif, alors que la ré sigma moins ne déplace que le niveau plus 1,5, et comme le désaccord est négatif, le niveau est déplacé vers le bas. Autrement dit, les deux effets s'ajoutent. Les deux effets s'ajoutent, et de plus, il n'y a pas besoin, d'utiliser un polariseur. La lumière est naturellement polarisée par le champ magnétique, c'est l'effet Zeeman, et un polariseur dans l'UV, de 2537 angstrom, absorbe beaucoup de lumière. Donc l'effet a pu être augmenté de manière considérable, et voici les résultats. Là, l'arrêt non déplacé, l'arrêt déplacé, donc c'était le test de troisième cycle de Nicole Polonsky et Jacques Duporan, et on voit très bien à ce moment-là un déplacement de l'arrêt qui est près de 10 fois supérieur à l'élargissement des niveaux. Donc on a vraiment là levé la dégénérescence d'un état fondamental. Autre expérience qui a été faite à ce moment-là pour montrer l'équivalence du faisceau lumineux polarisé sigma plus avec un champ magnétique fictif. Ça, c'est une expérience faite au cours de la thèse de Jacques Duporan. On a ici une cellule. On fait un pompage optique en champ magnétique nul avec un faisceau résonant dans cette direction. Donc les spins pointent dans cette direction et ils ne bougent pas parce qu'on est en champ nul. Et puis, brusquement, à l'instant t égale 0, on ajoute un faisceau perturbateur, B2, non résonant, en polarisation sigma plus, dont l'effet est équivalent à un champ magnétique fictif qu'on introduit dans cette direction. Donc les spins sont pompés comme ça, on applique brusquement un champ fictif dans cette direction, les spins se mettent à précesser, et voilà la précession. Donc on voit plusieurs précessions des spins pendant la durée de vie de l'état fondamental, qui montrent bien l'équivalence avec un champ magnétique fictif. Donc ça aussi, c'était un des travaux de la thèse de Jacques Duporan. En reprenant ces expériences, je me suis dit que peut-être ça serait intéressant d'utiliser maintenant cet effet qui pourrait être amplifié considérablement avec l'effet solaire. On sait que dans les expériences de condensation de Bose-Einstein, il y a des résonances de Feshbach en fonction du champ magnétique. On peut modifier les interactions entre atomes par un champ magnétique réel. On pourrait à ce moment-là modifier les collisions entre atomes en appliquant un faisceau non résonant polarisé convenablement qui serait équivalent à un champ fictif et qui permettrait d'introduire brusquement dans le système étudié un champ magnétique fictif. Champ magnétique fictif qui pourrait être différent d'un niveau à l'autre, parce que le désaccord pour un niveau et pour l'autre ne sont pas les mêmes. Donc il y a peut-être une idée à creuser et utiliser cet effet pour des expériences modernes sur la condensation de Bose-Einstein. Alors, je me suis limité ici aux fortes intensités, aux faibles intensités. Qu'est-ce qui se passe dans les cas des fortes intensités? Bien sûr, maintenant, avec les sources laser dont on dispose, les déplacements lumineux ne sont plus dans le domaine du Hertz, mais sont dans le domaine du mégahertz, du gigahertz, voire, on verra plus tard, encore plus important. Donc la fréquence de radio oméga n plus 1 peut être très très supérieure à gamma. Alors si on revient à la matrice delta moins phi gamma sur 2 oméga n plus 1, oméga n plus 1, les éléments non diagonaux oméga n plus 1 deviennent beaucoup plus grands que la différence entre les deux éléments diagonaux. Et à ce moment-là, bien sûr, quand on a la limite de très très forte intensité, les états propres et les valeurs propres de la matrice deviennent les parties symétriques et antisymétriques, les combinaisons linéaires symétriques et antisymétriques de Fn plus 1 et n, avec des valeurs propres dont on peut montrer qu'elles sont plus ou moins h bar oméga n plus 1 sur 2, moins i h bar gamma sur 4. Autrement dit, ces états biais sont des états intriqués, on s'aperçoit qu'ils sont des états intriqués de l'atome et du champ, parce qu'on ne peut pas les mettre sous forme d'un produit d'état atomique par un état du champ, et qui se partagent à proportion égale d'instabilité radiative de l'état excité. Alors, ceci a résonance, donc c'est sa résonance, on a donc deux valeurs propres différentes, et à ce moment-là, on ne peut plus réellement parler de déplacement lumineux, parce que les états habillés 1n et 2n sont des combinaisons linéaires à poids égal de f et de e, fn plus 1 et n. On doit plutôt parler à ce moment-là de doubler d'état biais. Par contre, si on est très loin de résonance, si delta est de nouveau très loin, très grand devant gamma et oméga n plus 1, de nouveau le traitement perturbatif s'applique et on peut introduire la notion de déplacement lumineux, de déplacement et d'élargissement radiatif. Les manifestations physiques de ce doublé d'état biais sont bien connues. Je renvoie au processus d'interaction chapitre 6, c'est ce qu'on appelle le doublé occultance et le triplé de fluorescence. Le doublé occultance, j'explique rapidement ce que c'est. Ici, j'ai représenté trois états nu et n, f, n plus 1, les deux états que j'ai déjà utilisés tout à l'heure, qui sont très proches l'un de l'autre, parce qu'on est près de la résonance pour la transition EF. Et puis ici, un autre état de l'atome, c'est n, mais comme lui n'est pas couplé, il est tout seul. Il n'y a pas d'état proche de lui. Lorsqu'on introduit le couplage, atome champ, ces deux états se déplacent pour donner les états billets 1n et 2n, que j'ai discuté maintenant avec un déplacement et un élargissement. Quant à l'état ciel, lui, il est éventuellement légèrement déplacé par des excitations non résonantes vers d'autres états. Alors, avant le couplage atome laser, la seule transition optique entre E et soit E soit F est la transition entre CN et EN, parce que une transition sondée par un deuxième faisceau sonde ne change pas le nombre de photons qui interagissent sur la transition EF. Donc elle obéit à la règle de sélection delta N égale 0. Donc il y a uniquement la transition ENFL. En présence du couplage, ces deux états biais sont des combinaisons linéaires de EN et FN plus 1, donc tous les deux contiennent une certaine proportion de EN, et à ce moment-là, ces deux transitions deviennent permises, et donc le fait d'exciter la transition FE fait que sur la transition EC, la transition EC va se transformer en un doublé, qui est ce qu'on appelle le doublé Oclartown. Si on regarde maintenant la fluorescence sur la même transition EF que celle qui est excitée par le faisceau laser, on a donc deux multiplicités consécutives, Fn plus 1 et n, Fn plus 2 et n plus 1. Quand on, en l'absence de couplage, la seule transition c'est entre En plus 1 et Fn plus 1, parce qu'elle correspond à delta n égale 0. Quand on met le couplage, on obtient deux états billets ici, deux états billets ici. Tous les deux contiennent une proportion de n plus 1. Tous les deux ici contiennent une proportion de Fn plus 1. De sorte maintenant que les quatre transitions deviennent permises, et on obtient ce qu'on appelle le triplé de Molo, une transition à cette fréquence, grande fréquence, une transition à cette fréquence, petite fréquence, et puis ces deux transitions dégénérées à la fréquence du laser. C'est le triplé de Molo. Tous ces effets ont fait l'objet d'études approfondies, notamment au cours de la thèse d'état de Serge Reynaud. Donc, pour terminer ce premier paragraphe, je voudrais mentionner quelque chose qui est évident, bien sûr, c'est que ces déplacements lumineux sont une perturbation dont il faut absolument tenir compte. Dans toute une série d'expériences, on utilise des systèmes atomiques interagissant avec des faisceaux lumineux pour réaliser des étalons de fréquences, c'est par exemple les horloges atomiques à pompage optique, ou pour mesurer des constantes fondamentales comme la constante de structure fine ou la constante de Rydberg par des expériences par exemple de spectroscopie à deux photons sans effet Doppler. Il est évident que les faisceaux lumineux qui sont utilisés dans ces expériences perturbent les niveaux d'énergie, qu'il faut extrapoler les mesures à intensité lumineuse nulle pour tirer des résultats scientifiquement valables. De même, en plus, si l'intensité lumineuse est inhomogène spatialement, le déplacement lumineux va varier d'un point à l'autre, et ça va conduire donc à un élargissement inhomogène de l'arrêt, qui va peut-être être aussi asymétrique si les déplacements vers le rouge ne sont pas aussi importants que les déplacements vers le bleu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir compte. Et j'y reviendrai à la prochaine séance, quand je parlerai de la transition ES2S de l'hydrogène ou de la transition 2S-ND de l'hydrogène pour la mesure de la constante de Rydberg. Bon, j'aborde maintenant une autre idée importante, c'est que cette interaction d'un atome avec une onde quasi-résonante, ça a aussi un effet sur le champ. Et c'est la dispersion et l'absorption au voisinage de résonance. Parce que je suppose ici que je suis toujours avec une onde quasi-résonante. Alors, pour étudier les effets perturbateurs sur le champ, je vais prendre le problème suivant. Je vais prendre un atome dans une cavité. Cette fois-ci, c'est une vraie cavité. C'est plus la cavité fictive qu'on utilise pour introduire le modèle de l'atome habillé. On prend une vraie cavité. Et on place dans cette cavité un atome dans l'état F et un champ dans un état cohérent. Et le couplage est établi, et on se pose la question suivante. Donc, la fréquence de l'atome qu'on a introduit a une fréquence propre, oméga 0, proche de la fréquence du champ. Question, comment l'amplitude moyenne, comment la phase moyenne du champ vont-elles être perturbées par la présence de l'atome dans l'état F? Et comment ces effets varient-ils avec le désaccord delta égale oméga moins oméga 0? Alors d'abord, il est important de comprendre la dépendance en N de la perturbation. Tout à l'heure, tous les résultats obtenus plus haut sur les états propres et valeurs propres de H et fictifs dans la multiplicité et N restent valables. N étant maintenant le nombre de photons qu'il y a dans la cavité réelle. Alors, nous avons vu en particulier qu'à la limite perturbative, j'ai supposé ici dans toute cette partie que je suis à la limite perturbative, où oméga N est faible, à la limite perturbative, les états propres de H effectifs sont très voisins de Fn plus 1 et N, et l'état Fn plus 1 subit un déplacement que j'avais appelé delta F et gamma F, un élargissement gamma F, qui ne dépend que de N, et qui était proportionnel à oméga N plus 1 carré. Et oméga n plus 1 carré, c'est comme oméga n plus 1, c'est racine de n plus 1, oméga n plus 1 carré, c'est n plus 1. Donc, au lieu de les appeler delta f et gamma f, je vais maintenant les appeler delta n et gamma n pour rappeler qu'il s'agit de des états propres qui sont dans la multiplicité et de n. Et je, donc, delta n et gamma n sont respectivement égaux à n plus 1 oméga 0 carré, oméga 0 fréquence du vide, delta sur 4 delta 2 plus gamma 2, et gamma n, c'est n plus 1 oméga 0 carré, gamma sur 4 delta 2 plus gamma 2. Et ici c'est F, si je mettais l'atome dans l'état excité E, le déplacement serait de signe opposé. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le déplacement de l'état E est opposé à celui de l'état F. Alors, j'ai représenté ici les états F0, F1 et 0 qui sont la multiplicité et 0, F2 et 1, la multiplicité et 1, F3 et 2, la multiplicité et 2, et ainsi de suite. Le niveau F0 ne subit aucun déplacement. Il n'est pas coupé, il n'y a pas de photon. Le niveau F1 subit un déplacement qui est, c'est la multiplicité et 0, donc n égale 0, donc n plus 1 oméga 0, 2, c'est delta 0, 2, delta 0. Le niveau F2, n égale 1, ici, et de n, n égale 1, donc il va subir un déplacement n plus 1, delta 0, donc 2 delta 0. Le niveau F3 va subir un déplacement 3 delta 0. Quant au niveau E, ils vont subir les déplacements de signes opposés, moins delta 0, moins 2 delta 0, moins 3 delta 0, et ainsi de suite. Alors, si vous regardez cette figure, l'écart entre ces deux niveaux, en absence de couplage, est égal à oméga, la fréquence du champ. En présence d'interaction, vous voyez que l'écart entre ce niveau et ce niveau va être oméga plus delta 0. L'écart entre ce niveau et ce niveau va être oméga plus 2 delta 0 moins delta 0, c'est plus delta 0. Et ainsi de suite. L'écart entre ces deux niveaux, ça va être oméga plus delta 0 moins 2 delta 0, ça va être oméga plus delta 0. Autrement dit, EFN plus 1 moins EFN, ça va être égal à H bar oméga plus delta 0. Je m'explique qu'il faut mettre ici le 0, hein, delta 0. Alors que si je suis dans l'état excité, je vais avoir, ici, ça descend de moins 2, ici, ça descend de moins 1, donc la fréquence va diminuer, même diminution ici, même diminution partout. La fréquence, l'écart entre E et N moins E et N moins 1 va être H bar oméga moins delta 0. Donc, conclusion, l'espacement entre les niveaux Fn plus 1 ou et N, déplacés par la lumière, correspond à la nouvelle fréquence du champ. Il y a une nouvelle fréquence du champ quand l'atome est dans l'état F, qui est oméga plus delta 0, et il y a une nouvelle fréquence du champ si l'atome est dans l'état E, c'est oméga moins delta 0. Donc, l'interaction atome-champ déplace la fréquence du champ dans un signe qui change suivant que, avec un signe qui change suivant que l'atome est dans l'état F ou dans l'état E. Et si on laisse cette interaction agir pendant un temps T, si par exemple l'atome passe dans la cavité pendant un temps T, ce décalage de fréquence va se traduire par un déphasage du champ par rapport à la valeur qu'il aurait gardée s'il n'y avait pas eu cette perturbation atomique. Et ce déphasage va être plus delta 0 T si l'atome est dans l'état F et moins delta 0 T si l'atome est dans l'état E. Et ça, c'est très analogue à la dispersion anormale. En effet, quand on a un faisceau lumineux qui traverse un milieu rempli d'atomes, le faisceau va subir un déphasage qui dépend de la longueur traversée L et qui dépend de la partie imaginaire, de la partie réelle de l'indice de réfraction. Laquelle partie réelle, au voisinage de la résonance, varie bien comme une courbe de dispersion. Ici, c'est un phénomène analogue, à part qu'au lieu de travailler dans l'espace, on travaille dans le temps. On a un atome qui interagit avec un champ pendant un temps T donné, au lieu d'avoir un faisceau qui traverse une longueur L de milieu matériel, et le déplacement lumineux de niveau va se traduire par un déphasage qui qui va s'accumuler dans le temps et non pas dans l'espace, et ce déphasage qui est delta 0 varie bien avec le désaccord comme une courbe de dispersion. Le voilà, le déphasage. Donc il y a vraiment une relation profonde entre le déplacement lumineux et la dispersion normale, la partie imaginaire de l'indice de réfraction. Alors, l'amortissement. Alors, je signale qu'ici, j'ai changé un petit peu par rapport aux notes que vous avez, parce que je ne donnais aucune démonstration dans ces notes, et il m'a semblé que c'était possible de donner une démonstration plus simple. Alors, ça sera dans les notes mises sur le web, hein, donc vous n'avez pas effectivement besoin de le recopier. Tu supposes que l'atome est initialement dans l'état F, et que le champ dans un état cohérent alpha, donc on a un état initial qui est somme sur n égale 0 à l'infini de alpha à la puissance n sur racine de factoriel n, et puissance moins alpha 2 sur 2, fn. À la limite perturbative que je suppose remplie dans ce paragraphe, les états habillés sont pratiquement égaux aux états nus, et l'état fn va évoluer maintenant avec une nouvelle énergie, et n tilde, qui est nh bar oméga, l'énergie non perturbée, plus h bar delta n, le déplacement du niveau n, moins i h bar gamma n sur 2, l'élargissement. Et comme delta n et gamma n sont respectivement égaux à n delta 0 et n gamma 0, je peux mettre n en facteur et j'aurai n h bar oméga 0 plus delta 0 moins i gamma 0 sur 2. Au bout d'un temps t, cet état-là est devenu le même état avec une exponentielle moins i et n tilde t, l'exponentielle d'évolution. Et si je remplace n par cette valeur, je m'aperçois que je peux mettre n en facteur, ici, et remplacer ce facteur e puissance moins i et n oméga 0 plus delta moins i gamma 0 sur 2 t, le regrouper avec alpha n, et je m'aperçois que j'ai un état cohérent qui est proportionnel à l'atome d'un état f, en présence d'un état cohérent qui n'est plus alpha, mais qui est alpha e puissance moins i oméga 0 plus delta 0 moins i gamma 0 sur 2 t. Autrement dit, c'est un état cohérent dont la fréquence d'évolution n'est plus oméga, mais oméga plus delta 0, et dont l'amplitude va être amortie avec un taux gamma sur 2. Donc gamma sur 2, c'est le taux, gamma 0 sur 2, c'est le taux d'amortissement du champ. Donc la présence de l'atome dans la cavité ne va pas changer le caractère cohérent du champ, va amortir son amplitude avec un taux gamma 0 sur 2, et gamma 0 varie bien comme une courbe d'absorption, et donc il y a une analogie profonde entre cet effet et l'effet d'absorption d'un faisceau lumineux qui traverse une longueur de milieu matériel. Bon, pour terminer, donc, dans le dernier quart d'heure qui me reste, je vais montrer maintenant que ces effets sont bien sûr des perturbations, mais ils sont également très intéressants, et qui permettent de faire des manipulations d'atomes dont on n'avait pas l'idée il y a 40 ans, qu'on les a découverts. En effet, les déplacements lumineux subis par l'état fondamental, s'ils dépendent de la position, ce qui est le cas quand le faisceau laser est inhomogène, peuvent créer des puits ou des barrières de potentiel pour les atomes neutres, des réseaux périodiques de puits de potentiel dans lesquels on peut piéger ces atomes, ou on peut les faire rebondir. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est facile de changer brutalement l'intensité d'un faisceau lumineux, de changer brutalement la fréquence. On a donc un moyen de contrôle nouveau sur ces perturbations qu'on a. On peut avoir un puits de potentiel, un réseau dont on peut varier le pas, dont on peut varier la position, à volonté. Alors, il faut bien voir que ici, il s'agit du couplage d'un champ électrique avec un dipôle induit, et ces couplages sont faibles, de sorte que la profondeur des puits est faible. Elle est de l'ordre du millikelvin. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pu être utiles et utilisables qu'à partir du moment où on a disposé d'atomes ayant une énergie cinétique plus petite que la profondeur des puits. Donc tous ces développements n'auraient pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu en même temps des techniques pour refroidir les atomes et pour diminuer leur vitesse. Et je passe maintenant en revue quelques applications, les pièges laser, les miroirs pour atomes, les réseaux. D'abord, les pièges pour atomes, on prend un faisceau laser polarisé, un faisceau laser focalisé, que j'ai dessiné ici, au foyer du faisceau laser, l'intensité est maximale. Et si je suppose que le faisceau laser est désaccordé vers le rouge, le déplacement lumineux de l'état fondamental, je suppose très loin de résonance. Donc je vais uniquement me préoccuper du déplacement lumineux, l'élargissement est négligeable. À ce moment-là, le déplacement de l'état fondamental est vers le bas. Et si je traverse le faisceau laser, par exemple, dans ce sens, j'ai un déplacement vers le bas qui est pratiquement nul, il n'y a pas de lumière, qui diminue, qui passe par un minimum et puis qui recroît, donc l'énergie potentielle de l'état fondamental va représenter un creux. Et si je balade dans ce sens, même chose, parce que l'intensité lumineuse ici est moins importante qu'ici. Donc, ici, j'ai un minimum d'énergie potentielle pour l'atome à trois dimensions, dans lequel les atomes peuvent se piéger s'ils sont suffisamment froids. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pièges laser, qui sont extrêmement utilisés maintenant, très communs. Et le premier piège laser a été réalisé dans l'équipe de Chu, qui était à l'époque au Bell Lab, en 1986. Deuxième exemple, un miroir pour atomes. Supposez que je prenne un bloc de verre et que j'envoie un faisceau laser qui subit une réflexion totale sur la face interne. S'il y a une réflexion interne, nous savons que dans l'autre partie, puis dans le vide, il y a une onde évanescente dont l'intensité va décroître exponentiellement avec la distance à la surface. Et supposez maintenant que le faisceau laser est désaccordé vers le bleu. À ce moment-là, le déplacement de l'état fondamental va être vers le haut. Et il va être maximum sur la surface, et puis il va décroître quand on s'éloigne de la surface. Donc, je vais avoir une barrière de potentiel au voisinage de la surface, puisque le potentiel vu par l'atome va croître au fur et à mesure que je me rapproche de la surface. Et la distance sur laquelle le potentiel est appliqué est de l'ordre d'une longueur d'onde optique, puisque nous savons que l'onde évanescente a une portée de l'ordre de la longueur d'onde optique. Alors, si maintenant, on lâche un atome froid d'une certaine altitude, et on le laisse tomber sur cet atome évanescent, oui, il va... Alors, ici, je représente Z, non plus verticalement, mais horizontalement, la barrière de potentiel associée à l'onde évanescente, et puis le trajet de l'atome qui va rebondir sur cette barrière. Si l'énergie initiale de l'atome est inférieure à la hauteur U0 de la barrière, vous voyez que l'atome va arriver, va rebondir sur cette barrière de potentiel avant de toucher la paroi. Il va rebondir sur un tapis de lumière. S'il touchait la paroi, il serait perdu, parce que la paroi est à température ordinaire, et l'atome est ici à une température de l'ordre de quelques microkelvins. Donc on a réalisé un miroir pour atomes, et ça c'est une idée qui a été suggérée en 82 par Cook et Hill. Alors, elle a bien sûr été utilisée à partir du moment où on a eu des atomes froids. Première expérience, là, qui a été réalisée à Stanford, dans l'équipe de Chu, on a un miroir plan, un nuage d'atomes froids qu'on laisse tomber, sur l'onde évanescente. À ce moment-là, l'atome rebondit, mais comme le miroir est plan, au bout de un ou deux rebonds, il quitte. Le mouvement transversal n'est pas stable. Ici, à Paris, au LKB, au laboratoire Cachet-Bruxelles, nous avons envisagé plutôt un miroir atomique parabolique, ou sphérique, si vous voulez, et avec une onde évanescente à la surface. Et là, on peut montrer que si la hauteur de chute H est plus petite que R sur 2, le mouvement de l'atome est stable transversalement. Il va rebondir comme ça, sans s'échapper par les côtés. Et donc à ce moment-là, on a une sorte de cavité gravitationnelle, l'atome peut rester piégé dans cette cavité, et on peut même calculer les modes quantiques de son mouvement. Alors l'expérience qui a été faite à Paris est la suivante. On part d'un nuage d'atomes froids, ici, dans un piège, et puis à l'instant T égale 0, on coupe les faisceaux, et on applique l'onde évanescente. Alors, les atomes rebondissent un certain nombre de fois, et un instant après, on applique un faisceau sonde à la même hauteur qu'ici, et on regarde le nombre d'atomes qui sont revenus dans la zone de détection. Et voici les résultats. C'est ce qu'on peut appeler un trampoline pour atomes, c'est exactement un trampoline. On voit qu'on peut observer jusqu'à 10 rebonds successifs des atomes sur cette paroi. Alors, la hauteur ici diminue, c'est pas parce que les atomes rebondissent moins haut. Ils rebondissent toujours à la même hauteur, mais il y en a de moins en moins, parce que le miroir n'est pas parfait, il y a des pertes. Et donc, en fait, on peut améliorer le miroir, et maintenant, il est possible de faire une centaine de réflexions successives sur des dispositifs de ce genre. Espérons donc, réalité à 84, en particulier par le regretté Karl Aminoff, qui passait 2 ans au Collège de France sur un poste de maître de conférence associé. Autre exemple extrêmement important, c'est les réseaux pour atomes neutres. Si on prend une onde stationnaire à 1, 2 ou 3 dimensions, l'intensité lumineuse est modulée spatialement et on a une série de puits de potentiel régulièrement espacés dans l'espace. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un réseau. Réseau d'atomes piégés dans un potentiel périodique, analogie avec un cristal, réseaux qui ont été étudiés de manière intensive, soit chez nous en particulier par Gilbert Grimbert, qui était un des pionniers, un des experts les plus connus dans ce domaine, dans l'équipe de Bill Phillips à Gaithersburg, aussi dans l'équipe de Ted Hinch à Munich. Ici, je prends une figure qui représente un tel réseau. À deux dimensions, la meilleure manière de se représenter ce réseau, c'est une boîte à œufs. Une boîte à œufs dans laquelle on met des œufs. C'est exactement des puits de potentiel dans lesquels les particules viennent se piéger. Alors, au début, les gens appelaient ça cristal optique. Un cristal optique, j'aime pas, c'est pas une bonne détermination parce que dans un cristal, dans un vrai cristal, l'ordre spatial des atomes résulte de leur interaction. Dans un réseau du type de celui que je décris ici, l'ordre spatial des atomes n'est pas dû à leur interaction, il est dû à une source extérieure qui est le déplacement lumineux associé à l'onde laser stationnaire. Donc je crois qu'il vaut mieux appeler ça un réseau optique qu'un cristal. Néanmoins, il est intéressant de voir l'analogie avec les cristaux qui sont étudiés en physique du solide. Ici, l'ordre spatial résulte d'un potentiel extérieur, et ce potentiel extérieur, d'abord, a des ordres de grandeur complètement différents. La période spatiale n'est plus l'angstrom, comme c'est le cas pour, ou quelques angstroms, comme c'est le cas pour un vrai cristal. Ici, c'est de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire de l'ordre du micron. Donc c'est un cristal avec une maille beaucoup plus grande, avec une périodicité beaucoup plus grande. D'autre part, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut varier la hauteur des puits, il suffit de changer l'intensité du faisceau laser, on peut varier la position du réseau en changeant la phase d'une des ondes laser. Donc c'est un réseau dont on peut modifier à volonté les paramètres. Et ça c'est quelque chose qui n'existe pas en physique solide, on ne peut pas changer comme ça brusquement la profondeur des puits ni la distance entre les atomes d'un cristal. Et nous verrons que ceci a eu des conséquences extrêmement importantes sur les applications modernes. Je voudrais maintenant donner deux exemples d'applications qui me paraissent particulièrement intéressants. Très rapidement, étude récente sur les réseaux, la spectroscopie Raman de la structure de bande des niveaux dans un potentiel périodique, parce que les atomes qui sont dans un potentiel périodique, leurs niveaux d'énergie sont des fonctions de blocs. Il y a des bandes, comme en physique du solide, et il a été possible d'observer ces bandes, de les mesurer par spectroscopie Raman. Il a été possible, j'y reviendrai dans la suite, d'observer les oscillations de blocs d'atomes accélérés dans un potentiel périodique. Quand on accélère des atomes dans un potentiel périodique, donc ils sont soumis d'une part à une force constante et d'autre part à une force périodique, à ce moment-là, au lieu d'être accélérés uniformément au cours du temps, ce qui serait le cas si c'était libre, ils se mettent à faire des oscillations de vitesse qui sont très connues en physique du solide, qu'on appelle les oscillations de blocs. Il y a aussi une expérience spectaculaire, une des plus importantes du domaine qui a été réalisée il y a un an par Emmanuel Bloch, que certains d'entre vous ont écouté ici lors du dernier symposium, où on piège un condensat de Bose-Einstein dans un réseau périodique en branchant adiabatiquement un réseau sur un condensat. À ce moment-là, on a une phase superfluide et en variant la hauteur des barrières, on observe une transition entre cette phase superfluide et une phase où les atomes deviennent localisés dans chaque puits. On observe donc la compétition entre l'effet tunnel entre puits voisins, qui est responsable de la délocalisation sur l'ensemble du réseau, et la localisation dans le puits qui est due aux interactions entre atomes, et qui est due aussi au fait que la hauteur de la barrière de potentiel devient de plus en plus grande et que l'effet tunnel devient de plus en plus petit. Si vous voulez, je crois que la philosophie générale de toutes ces expériences, c'est qu'on est capable maintenant en physique atomique d'étudier sur des milieux dilués, qui sont en fait 100 000 fois plus dilués que l'air ambiant, des faits qui sont habituellement rencontrés en physique de la matière condensée, notamment en physique du solide. Mais comme les interactions sont beaucoup plus faibles, puisque le milieu est beaucoup plus dilué, on peut en tenir compte de manière beaucoup plus précise. Donc c'est un domaine de recherche extrêmement actif et fécond. Alors, je voudrais vous parler en particulier d'une configuration laser qui est particulièrement intéressante et qui est la suivante. Supposez qu'on prenne deux ondes laser se propageant dans des sens opposés, le long de l'axe Z, avec des polarisations linéaires, la première faisant un angle θ sur 2 avec x, la deuxième faisant un angle moins θ sur 2 avec x. Donc on a deux faisceaux laser qui se propagent dans des directions opposées avec leur polarisation linéaire qui font un angle θ, qu'on peut varier bien sûr. Alors ces deux ondes laser, je les écris comme E1 et puissance i kz plus E2 et puissance moins i kz, où E1 c'est cosinus θ sur 2 et x plus sinus θ sur 2 y, et E2 c'est cosinus θ sur 2 et x moins sinus θ sur 2 et y. Voilà, plus complexe conjugué. Et puissance moins i oméga t. Voici le faisceau laser. Deux ondes progressives de sens opposé. Si maintenant je change de base et au lieu d'utiliser la base x et y, j'utilise la base e plus et moins, qui est la polarisation sigma plus et la polarisation sigma moins, et x moins et x plus i et y sur racine de 2, et x moins i et y sur racine de 2, je peux tout réexprimer en fonction de e plus et moins, et un calcul élémentaire montre que le champ précédent peut aussi s'écrire e racine de 2 moins e plus cosinus kz moins θ sur 2, plus e moins cosinus kz plus θ sur 2, le tout est puissance moins i oméga t plus complexe conjugué. Et ceci, maintenant, cosinus kz moins θ sur 2 et puissance i oméga t, c'est une onde stationnaire. On a donc la configuration précédente peut être considérée comme deux ondes progressives de polarisation linéaire faisant un angle θ, ou deux ondes stationnaires, l'une polarisée sigma plus, l'autre polarisée sigma moins. Et avec des dépensées spatiales qui sont cosinus kz moins θ sur 2, cosinus kz plus θ sur 2. Donc on a une superposition de deux ondes stationnaires sigma plus sigma moins, et les intensités de ces ondes, c'est le carré des amplitudes. La première, c'est cosinus carré de kz moins θ sur 2, c'est-à-dire 1 moins cosinus de kz moins θ, et la deuxième, c'est cosinus carré de kz plus θ sur 2, c'est 1 moins cosinus de kz plus θ. Donc nous avons deux ondes stationnaires. Et ce qui est intéressant, c'est que si je prends par exemple, je reviens toujours à ma transition 1/2, 1/2, à ce moment-là, l'onde sigma plus ne perturbe que le niveau moins 1/2, et l'onde sigma moins ne perturbe que le niveau plus 1/2. Donc ces courbes de potentiel qui sont ici, l'une n'agit que sur mf égale moins 1/2, l'autre n'agit que sur mf égale plus 1/2. Et là, nous voyons apparaître une idée importante dans tout ce domaine de recherche, qui est l'idée d'un potentiel qui dépend de l'état interne. On peut créer un potentiel extérieur qui dépend de l'état interne, et que j'ai dessiné ici. Voilà les deux potentiels, I plus et I moins, V plus et V moins. Alors comme c'est cosinus, la périodicité est lambda sur 2, une onde stationnaire formée par deux ondes qui se propagent avec, en sens opposé avec le même vecteur d'onde, c'est lambda sur 2. Et si je regarde le cliché précédent, par exemple, le maximum ici va être pour z égale θ sur 2k, et ici ça va être z moins θ sur 2k, donc la différence entre les deux ondes, ça va être θ sur k. Et comme k c'est 2π sur lambda, l'espacement entre les deux potentiels, delta z, ça va être lambda sur k, c'est-à-dire θ sur k, ça veut dire lambda θ sur 2π. Et vous voyez qu'à ce moment-là, en tournant le polariseur, en changeant l'angle, pour θ égale 0, les deux potentiels coïncident, puis j'augmente θ, pour θ égale π sur 2, quand les deux polarisations sont orthogonales, pour θ égale π sur 2, je vais avoir les deux ondes qui vont être en opposition de phase, parce qu'on va séparer de lambda sur 4, alors que la distance entre deux maximum, c'est lambda sur 2, et pour θ égale π, je vais avoir lambda sur 2, les deux ondes vont être de nouveau confondues. Donc ces deux potentiels, le potentiel rouge et le potentiel bleu, ils coïncident pour θ égale 0, ils sont en quadrature pour θ égale π sur 2, et sont de nouveau coïncides pour θ égale π. Donc en tournant simplement le polariseur, je peux déplacer le potentiel vu par l'état plus et vu par l'état moins dans l'état fondamental. Je dessine ici, dans le potentiel V plus, V moins, pardon, les atomes dans l'état moins 1/2, dans l'état plus 1/2, pour le potentiel V plus, les atomes dans l'état moins 1/2. Et en particulier, quand θ égale π sur 2, les deux potentiels sont en quadrature et les spins sont alignés dans un sens, dans le sens opposé suivant. On a donc un ordre antiferromagnétique. On a réalisé en quelque sorte un cristal antiferromagnétique. Alors, ce qui a été réalisé récemment, une très belle expérience, qui a été réalisée toujours par Emmanuel Bloch, et ça, c'est, je l'explique avec des mots, je vais plutôt prendre le schéma qui est plus facile à expliquer. Il a réalisé l'expérience suivante. Il est parti d'un atome piégé dans un des puits de potentiel pour θ égale 0. Par exemple, un atome dans l'état plus 1/2 piégé dans un des puits de potentiel, les deux puits coïncident pour θ égale 0. Puis, il applique une impulsion π sur 2 entre les deux états de spin, plus et moins. Il transforme donc l'état en une superposition linéaire de plus et de moins, que j'ai dessiné ici. Toujours dans le même puits, puisque les deux états plus et moins sont respectivement piégé dans le potentiel bleu et dans le potentiel rouge, mais il coïncide à ce moment-là. Puis à ce moment-là, on tombe déjà, on tombe doucement pour l'arriver. À ce moment-là, la courbe rouge est décalée par rapport à la courbe bleue, et elle entraîne avec elle le spin rouge, là, le spin dans l'état moindre, puisque ce spin est sensible à ce potentiel. Donc on parle ici d'une superposition linéaire de deux fonctions d'onde dans le même puits, qui sont les mêmes fonctions d'onde orbitales, mais avec un spin dans cette direction ou un spin dans cette direction, et en bougeant le polariseur, on sépare la partie de cette fonction d'onde où le spin est moindre, de la partie de la fonction d'onde où le spin est plus, et on déplace spatialement jusqu'à arriver à θ égale π. On a déplacé d'une période, et donc on a trimballé le spin dans l'état moins, on l'a déplacé de lambda sur 2, on l'a amené ici, mais la fonction d'onde orbitale qui est ici est restée cohérente, bien sûr, avec la fonction d'onde qui est ici. Alors, question, est-ce qu'on peut observer une interférence entre ces deux fonctions d'onde maintenant qui sont cohérentes entre elles et qui sont déplacées? La réponse est non, parce que l'état du spin est orthogonal dans l'une et dans l'autre. Et ça, c'est facile à corriger. Il suffit de nouveau faire une impulsion π sur 2 sur l'état de spin. Et à ce moment-là, on a une superposition, le spin plus une superposition de ces deux fonctions d'onde, plus le spin moins une superposition avec des facteurs de phase égaux des deux mêmes fonctions d'onde. Et à ce moment-là, si on lâche, on coupe tout, et qu'on laisse le système tomber balistiquement, et qu'on détecte un des états spin, on va avoir des interférences spatiales, montrant que ces deux fonctions d'onde ici sont cohérentes l'une avec l'autre. Il y a donc ici un transport cohérent, un transport cohérent de matière dépendant du spin. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important. Alors, il y a eu d'autres applications des déplacements lumineux, bien sûr, que je mentionne ici pour mémoire, parce que je reprendrai après, c'est le déplacement Sisyphe, le refroidissement Sisyphe, qui est un refroidissement utilisant à la fois les déplacements lumineux et le pompage optique, et je reviendrai en détail là-dessus, qui permet de refroidir les atomes beaucoup plus bas que le refroidissement Doppler. Autre exemple que je mentionne ici, compensation de l'effet Doppler par des déplacements lumineux dépendant de la vitesse. En effet, le déplacement lumineux d'un état fondamental dépend du désaccord entre le faisceau laser et l'atome. Si l'atome est en mouvement par rapport au faisceau laser, la fréquence apparente du faisceau laser va changer par effet Doppler. Donc, le désaccord va aussi changer par effet Doppler. Donc le déplacement lumineux va aussi changer. Donc le déplacement lumineux va dépendre de la vitesse de l'atome, à cause de l'effet Doppler, qui change le désaccord. Et on peut s'arranger pour que la variation du déplacement lumineux dû à l'effet Doppler compense l'effet Doppler lors de l'émission de cet atome sur une autre raie, dans une direction donnée. Et on obtient alors ce qu'on appelle une compensation de l'effet Doppler par des déplacements lumineux dépendant de la vitesse. Cet effet donc a été calculé, prévu et observé. Je donne ici la référence d'une lettre. C'était essentiellement une partie importante du travail de thèse de Serge Reynaud. Ce qui est intéressant aussi dans cet effet, c'est que comme l'effet Doppler à l'émission n'est pas le même dans une direction et dans l'autre, si la compensation de l'effet Doppler se fait dans une direction, elle est doublée dans l'autre. Et à ce moment-là, on a un système qui est très anisotrope dans son émission, c'est un système qui émet beaucoup plus facilement dans une direction que dans l'autre, et ça peut avoir des applications. Je voudrais maintenant, pour terminer, donner un exemple du déphasage d'un champ produit par son interaction avec un atome. Je vous ai montré tout à l'heure que l'interaction non résonante d'un champ enfermé dans une cavité avec un atome produit un déphasage qui est égal à plus phi si l'atome est dans F, moins phi si l'atome est dans E. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rentre l'atome dans la cavité, non pas dans l'état F, non pas dans l'état E, mais dans une superposition linéaire de F et de E, 1 sur racine de 2, F plus E, ce qui est possible avec une impulsion π sur 2. À ce moment-là, l'état du système global atome plus champ à l'issue de l'interaction, ça va être 1 sur racine de 2, F plus phi, plus 1 sur racine de 2, E moins phi. Ça va être une superposition linéaire de deux états qui diffèrent à la fois par E et F et par phi et moins phi. Et si le nombre de photons dans l'état cohérent est suffisamment important, et si le déphasage est suffisamment important, les états phi et moins phi peuvent être différés de manière mésoscopique, ils peuvent être mésoscopiquement différents. Alors, comme tout à l'heure dans l'expérience, ces deux ces deux états ne peuvent pas interférer au point du champ parce qu'ils correspondent à des états atomiques différents, orthogonaux, mais on peut s'en sortir en faisant une impulsion pi sur 2 de nouveau sur les atomes, qui transforme F en F plus E sur racine de 2, et E en F moins E sur racine de 2, et alors à ce moment-là, on a, à la sorte, après cette impulsion, un atome dans un état donné, en présence d'un champ, dans l'état 1 sur racine de 2 plus phi plus moins phi, ou dans l'état plus phi moins moins phi. Et je représente ici un tel état, plus phi plus moins phi, c'est un état, une superposition de deux états qui sont différents de manière importante, et à ce moment-là, on peut étudier l'évolution de ces états, étudier comment leur dissipation varie avec la distance entre les deux, et c'est le problème de la décohérence, et je crois que Serge Haroche, dans son cours, a déjà décrit cette expérience, sinon vous avez certainement écouté un séminaire, c'est une expérience importante qui a été faite en 96 et qui permet de mettre en évidence clairement comment la dissipation d'un état mésoscopique, une superposition de deux états mésoscopiquement différents, varie, augmente, devient de plus en plus importante quand la distance entre les deux états augmente. Donc vous voyez que ces effets dont je vous ai parlé, qui ont été étudiés il y a un certain nombre d'années, se retrouvent actuellement très importants et très utiles pour étudier toute une série de problèmes modernes. Donc je vais m'arrêter là, j'ai dépassé un peu, je m'excuse, je reprends dans un petit moment pour l'interaction avec un champ haute fréquence.